Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis très ému de parler devant vous ce matin. C'est la première fois que je m'exprime, en tout cas pour le sabbat, parce que comme hier soir et... Quoique c'était le sabbat déjà hier soir, entre nous soit dit. Mais enfin, c'est la première visite officielle en Belgique pour moi. Et je suis très ému de partager le pain de vie, l'évangile... Bien sûr, avec la coloration d'Ellen White aujourd'hui, ça lui ferait pas très très plaisir à Ellen White que j'en parle autant, certainement. Elle avait de la pudeur à ce qu'on parle d'elle en public parfois. Puis nos frères et sœurs pionniers, fondateurs de la communauté adventiste au départ, l'utilisaient avec beaucoup plus de parcimonie qu'elle ne sera ensuite utilisée, instrumentalisée après sa mort au début du XXe siècle. Mais bon... C'est intéressant de temps en temps de lui rendre hommage parce qu'elle a des choses très très importantes à dire et c'est l'une de ces choses très très importantes qui lui tenait très très à cœur que je voudrais partager avec vous ce matin, à tel point que ça lui tenait à cœur que d'une certaine manière, et c'est comme ça que je conclurai aussi ce petit message, Ellen White identifiait le christianisme très fortement par rapport à ce message que je partage avec vous ce matin. Donc j'ai intitulé ce message « Tu ne tueras pas ». Donc une méditation sur la sixième parole donc, du décalogue pour commencer. Et ensuite nous irons faire un petit tour du côté de la neuvième parole du décalogue toujours, qui est assez souvent traduite dans nos bibles contemporaines par rapport au mensonge. Mais nous verrons que ça va beaucoup plus loin que le mensonge. Alors « Tu ne tueras pas ». Est-ce que le chrétien est un assassin? Vous allez me dire que je commence fort. Aujourd'hui, ce n'est pas en parlant de la guerre que je voudrais partager l'évangile avec vous, ni pour militer contre l'avortement. Ce sera plutôt dans l'esprit de la mise à jour du Christ qu'il fait donc dans le sermon sur la montagne, mise à jour, donc la réactualisation de ce commandement et de l'autre aussi que je voudrais méditer l'évangile. Le Christ qui nous dit « Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres « Tu ne dois tuer personne ». Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Donc bien loin d'annuler les commandements, ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, dans ce même chapitre, Jésus non seulement n'annule rien, mais va beaucoup plus dans la profondeur de ces commandements. Et le christianisme, finalement, d'une certaine manière, est bien plus exigeant que le décalogue lui-même. Alors, est-ce que le chrétien, est-ce que Jean-Luc est un assassin? On a envie de dire que non. Enfin, vous l'espérez, j'imagine, que je ne sois pas un assassin. Et pourtant, alors c'est sur ce « et pourtant » que nous allons réfléchir en demandant à Dieu, à son esprit, de nous guider. Et pourtant. Mais je voudrais vous dire que malgré les 50 ou 60 centimètres qui me séparent de vous, je ne suis pas un expert du tout dans ce que je vais partager avec vous ce matin. J'ai beaucoup besoin moi-même de ce message. Je ne suis pas à la hauteur du tout de ce que je vais prêcher ce matin. J'ai besoin du Christ, j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de son aide pour que Dieu transforme aussi ma vie. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est supérieur à vous et qui vient en disant « Eh ben, pour moi la question est réglée, je suis donc là comme un enseignant devant des enseignés ». Pas du tout. Je suis tout petit et parmi vous il y a beaucoup de gens qui sont de meilleurs chrétiens que moi. Nous avons tous fait, frères et sœurs, chers amis, au moins un jour dans notre vie, l'expérience de parole. Pensez donc à l'épître de Jacques qui vient d'être lu. Nous avons tous fait, au moins une fois dans notre vie, l'expérience de paroles qui nous ont humiliés, qui nous ont atteints, blessés, qui nous ont conduits au silence, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont, oui, peut-être même tués, en tout cas partiellement, qui nous ont fait profondément saigner. Vous me suivez jusque-là? Mais l'inverse est vrai aussi, frères et sœurs, et je me le reproche aussi encore aujourd'hui. Qui de nous, moi je ne peux pas dire non, qui de nous peut dire que ces paroles n'ont jamais humilié, blessé, attristé, obligé au silence, fait pleurer, irrité? Les mots, et c'est ce que je médite avec vous ce matin, sont des armes dont nous n'imaginons pas la puissance terrible sur les êtres humains. Les mots, pour reprendre une pensée de Salomon que nous allons lire maintenant à l'écran, ont d'une certaine manière une puissance tellement forte qu'elle nous donne, entre guillemets, le droit de vie et le droit de mort sur les personnes que nous rencontrons. C'est ce qu'il affirme Salomon. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler, alors ça me concerne très fort, je suis tellement bavard, doit en accepter les conséquences. Il y a des messages fantastiques, très évangéliques dans le livre des Proverbes et qui nous encouragent parfois au silence, à l'économie des paroles, y compris lorsqu'on s'adresse au Créateur. Salomon nous dit que nous parlons trop devant Dieu parfois. Et trop vite. Les mots peuvent donc juger, peuvent condamner, peuvent enfermer des êtres humains dans une définition, dans une boîte. Il est comme ceci, il est comme cela, il est libéral, il est conservateur, il est fondamentaliste, il n'est pas adventiste, il est prétentieux, il n'est pas chrétien. Quelquefois, nous exagérons très fortement. Il est menteur. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est peut-être une personne qui a menti. Maintenant, du fait qu'elle a menti, est-ce que ça fait d'elle un menteur? Il est violent. Et non, il a été agressif, mais est-ce que parce qu'il a été agressif, il est agressif? Comprenez la nuance? Nous enfermons parfois les gens dans ce qu'ils viennent de faire. Mais l'être humain est beaucoup plus beau que ce qu'il fait. Et heureusement que Dieu ne nous regarde pas uniquement à ce que nous commettons ponctuellement. Nous sommes plus riches, plus intéressants pour Dieu que ce que nous commettons ou que ce que nous pensons. Enfermer des êtres humains dans une boîte, dans des définitions comme cela, finalement, c'est arrêter le temps, c'est tuer le temps pour cette personne. Elle n'existe que par rapport à son passé, et souvent son passé récent, parfois même plus loin que cela. L'être humain, il est plus beau que cela, plus beau que son passé. Ces mots peuvent donc tuer, ce sont des armes mortelles. Et alors justement, Jésus, dans sa mise à jour du décalogue, veut protéger nos relations humaines et nous encourage à faire la paix, à nous réconcilier avec notre frère, avec notre sœur. Et cette réconciliation, justement, provient de quantité de choses et de l'œuvre du Saint-Esprit, bien sûr, dans notre cœur, mais ne peut venir que si nous cessons de diriger nos mots pour agresser, pour évaluer, pour enfermer, pour définir, et au contraire, comme le dit le Sermon sur la montagne, si nous utilisons nos mots pour bénir, pour dire du bien, pour faire du bien, pour valoriser, pour retenir ce qu'il y a de meilleur chez l'être humain, pas ce qu'il y a de pire, pour réconforter. Alors vous allez me dire, oui mais Jean-Luc, c'est bien mignon, mais Dieu nous encourage aussi à dire des choses qui ne sont pas agréables. Dieu nous encourage à reprendre, à corriger, à exhorter, à toucher du doigt certaines plaies. Bien évidemment, mais le petit Jean-Luc qui dit cela doit se poser un certain nombre de questions d'abord. Est-ce que je suis la personne la plus compétente pour aller dire ça? Est-ce que je suis seul déjà? Est-ce que Dieu ne peut pas le faire dire par d'autres personnes? Non pas par manque de courage et par fuite, mais est-ce que je suis la personne la mieux équipée? J'ai observé, j'ai entendu quelque chose que je pense ne pas être dans le sens de l'Évangile, est-ce que c'est à moi d'aller dire ça? Autre question importante, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis dans les meilleures conditions pour ça? Est-ce que je suis préparé pour cela? Est-ce que j'ai assez prié pour cela? Est-ce que par hasard je n'ai pas besoin de demander à Dieu davantage de compassion pour cela? Saint Paul écrit, « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. » Et ce ne sont pas des gros mots auxquels il fait allusion. Oh là là, beaucoup plus loin que ça. Il entre aussi carrément dans le ventre de la pensée chrétienne. Là. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et des paroles qui font du bien à ceux qui vous entendent. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes. C'est plein de sous-entendus, frères et sœurs, tout ça, parce que ça sous-entend qu'à Éphèse, tout ne tournait pas très rond, de ce côté-là. On imagine souvent nos pionniers de l'Église primitive comme des êtres qui ne font qu'un seul cœur et qu'une âme et qui partageaient tous leurs biens en commun, etc. La Pentecôte, ça n'a pas duré longtemps, cet état d'esprit-là, et l'Église régnait dans la paix dans toute la Judée, etc. Les Actes. Oui, mais ça, c'est au début du livre des Actes. À la fin du livre des Actes, ça va déjà moins bien, mais alors dans les Épîtres, ça va encore moins bien. Mais ça va aussi mieux, parce que l'aide du Saint-Esprit est là et qui transforme les cœurs. Mais ça va parfois pire. Hein? Donc là, c'est plein de sous-entendus. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Frères et sœurs, ce n'est que dans la mesure où nous mettons ce type de parole de Dieu dans la pratique de notre existence que nous pouvons prétendre dire que nous ne tuons personne. Regardons un petit peu maintenant la neuvième parole. Cette parole donc qui nous dit « Ne témoigne pas faussement contre ton prochain ». Et j'ai mis en bleu ce mot « contre » qui revient dans les meilleures traductions de ce décalogue. Les meilleures traductions soulignent cette idée qu'on a dans ce commandement-là quelque chose à voir contre la personne. C'est pas simplement qu'on dit une inexactitude comme si je vous disais que je suis habillé en rose ou que ça c'est un magnum et que je peux manger une glace. Là je dis une bêtise, je dis une inexactitude, mais je ne porte atteinte à la réputation de personne. Je dis pas qu'il faut continuer à dire des mensonges, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais ce commandement-là va beaucoup plus loin que l'abstinence de mauvaises informations ou l'abstinence d'inexactitude. Ça va beaucoup plus au fond des choses. Dans son essence, cette neuvième parole ne concerne pas que des idées, que des concepts. Il en va de la réputation de l'être humain. Cette parole veut libérer, comme tous les 10 commandements d'ailleurs, hein. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et je vais continuer à t'aider à vivre comme des êtres humains libres, des êtres humains libres et qui contribuent à la liberté des autres aussi. Donc, Dieu veut protéger le croyant contre cette tentation d'utiliser la langue pour porter atteinte à l'identité de notre prochain, à sa réputation. Est mensonge, pour reprendre un petit mot qui a beaucoup eu de poussière, hein, qui a vieilli, est mensonge ce qui porte atteinte à la personne de mon frère, de ma sœur, à sa vérité, à son honneur, à sa dignité. Lorsqu'on cherche à salir son image, en disant peut-être des choses négatives qui ont existé, c'est possible, ou en inventant. Lorsqu'on fait le commerce de ses défauts, sur la place publique. Gloire à Dieu, ça n'est jamais arrivé à Bruxelles. Mais ça arrive en France, ça, figurez-vous. Et ça arrive dans ma vie à moi. Vous êtes bénis des dieux, comme disaient les gens autrefois, et du Saint-Esprit pour être chrétien, parce que ça n'arrive pas dans votre église. Mais ça arrive ailleurs. Que des chrétiens passent leur temps au téléphone, dans des courriers, des emails, des fax, les couloirs de l'église, pas ici bien sûr, mais ailleurs, en discutant des défauts des autres. Parfois même, nous pensons que ça va mieux parce que nous ne faisons qu'écouter les rumeurs. Nous pouvons tuer aussi, blesser, faire saigner les gens en écoutant simplement des rumeurs. C'est pas facile, hein. Je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout un expert de cela. Il m'arrive d'être déboussolé, décontenancé. J'écoute quelquefois des gens, il m'arrive de sourire et je demande vraiment pardon à Dieu de ça. Mais parfois, je suis tellement lâche que je souris au lieu de dire, écoute, je ne suis pas compétent pour évaluer tout ce que tu es en train de me dire. Je ne connais peut-être pas cette personne ou je ne connais pas ce que tu prétends m'annoncer. On va changer de conversation. J'ai tellement peur de la séparation ou de l'image que la conversation va donner de moi-même que je continue à écouter cette personne. Alors, bien sûr, je fais des efforts et c'est de ça que je témoigne ce matin avec l'aide de Dieu qui me libère aussi. Mais je ne peux pas dire que l'affaire est close et que je n'ai pas à guérir encore. Nous verrons cet après-midi et dans la deuxième partie de ce message ce matin, Ellen White a des choses fantastiques à nous dire, simplement dans le fait d'écouter une rumeur fondée ou pas, peu importe, mais quelque chose qui est dit lorsque l'intéressé n'est pas là. Les paroles peuvent tuer aussi lorsque, au lieu de guérir cette personne, nous vidons notre sac. Pour nous soulager souvent. Vous savez, j'ai remarqué moi personnellement dans ma vie que quand je me mets en colère ou quand je dis des choses qui ne sont pas constructive sur un être humain, si je suis honnête avec moi-même, que ce soit contre mes enfants ou quelqu'un d'autre, c'est pas très enrichissant ce que je vais vous dire maintenant, mais lorsque j'évalue ma vie, je me rends compte que, en me mettant en colère, ce n'est pas pour la bénédiction de la personne que je le fais. C'est parce que ça me fait du bien, figurez-vous. Et que je vide mon sac. Je vais le regretter après, mais voilà, ça m'a fait du bien. Alors je lui ai dit ces quatre vérités, je lui ai vomi tout ce qu'elle pouvait entendre sur le visage. Je le fais avec délicatesse, parce que je suis chrétien et adventiste, mais ça m'arrive aussi de ne pas être toujours délicat. Et je demande pardon à Dieu pour cela. Alors après avoir identifié le problème, on va essayer de trouver une solution. Il y en a beaucoup qui sont dans le cœur de Dieu, des solutions pour nous guérir de tout cela. Nous allons essayer de parler de l'identité de Dieu, comme la voyait Ellen White. Quel est le portrait que nous nous faisons de Dieu? Quelle est l'image, le visage que nous nous représentons de Dieu? Je parle là bien sûr en métaphore, hein? Peu importe son vrai visage, sa nature, mais en tout cas, quelle est l'image, le portrait de Dieu que nous nous faisons? Parce que c'est très très lié à ce que je partage avec vous. La façon dont nous nous représentons le caractère de Dieu affecte terriblement, parfois nos doctrines, notre théologie, notre façon de vivre l'adventisme, mais aussi nos relations avec lui, parce que nous pouvons peut-être avoir peur de lui. Nous reviendrons là-dessus, parce que ça a été une expérience d'Ellen White dans sa jeunesse, la peur, la trouille de Dieu. Donc ça peut affecter notre relation avec lui, notre relation avec nous-mêmes, parce que nous pouvons aussi vivre dans l'introspection et dans la culpabilité alors que Dieu ne le veut pas, mais ça peut affecter aussi nos relations humaines. Si Dieu est d'abord un juge pour nous, essentiellement, prioritairement un juge pour nous, alors il y a de grandes chances que je le devienne moi-même et que je transforme ma vie chrétienne en un ministère de répréhension, de justice et que sais-je encore. Ellen White dit que dans son passé, la justice de Dieu était tellement centrale dans l'image qu'elle se faisait de Dieu que ça écrasait tout le reste, comme si Dieu n'était que ça. Alors bien sûr que Dieu est juge et que encore faut-il s'entendre sur juge. Petite parenthèse. Vous avez entendu parler du procès d'Outreau et de quantité d'autres fiascos en France dont nous ne sommes pas fiers, nous les Français. Et ce n'est pas la seule fois. Mais par-delà tout cela, la justice, en France en tout cas, est composée de quantité de personnages, hommes, femmes, et il y a donc un juge qui va prendre la décision finale. Il y a des jurés, des avocats, des procureurs de la République qui écrasent, ou qui défendent en tout cas le texte de la loi. Et puis, des avocats qui plaident en faveur, quand c'est possible. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour cela. C'était pas comme ça du tout en Israël. Le juge et l'avocat de la défense, c'était la même personne. Ça change beaucoup de choses, ça, dans notre théologie, dans notre façon de concevoir le jugement, par exemple. Et l'image de Dieu que nous nous faisons. Vous imaginez, la personne, donc Dieu, qui va prendre la décision finale sur nous, c'est la même personne, le Christ, qui ne cesse de passer son temps à plaider en notre faveur. C'est fantastique, ça. Il s'est rempli d'empathie, de compassion, un caractère de Dieu qui vaut le coup vraiment de redécouvrir. Et qu'Ellen White se tue à nous faire mieux comprendre. Nous reviendrons là-dessus cet après-midi. Regardez un texte très très connu qui se trouve dans le premier chapitre du Meilleur Chemin. Elle fait le portrait là, non pas le portrait de Dieu réel, ni celui qu'elle croit elle, mais le portrait que Satan fait de Dieu. Il a fait en sorte que les hommes soient aveuglés, dit-elle, et qu'ils s'approchent de Dieu avec crainte. Le considère comme un être sévère, implacable, en anglais unforgiving. Donc un Dieu qui ne pardonne pas, c'est pas ce qu'il aime faire. Satan fait passer notre Père Céleste pour un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur, inexorable. Il dépeint le Créateur comme un policier, un radar, on va dire, un radar, qui observe les hommes d'un œil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs, leurs fautes, et qui se réjouit presque de ça, hein, dont c'est la spécialité, et afin de les frapper de ses jugements. Et elle dit que le Christ est venu sur terre pour mille raisons, mais en tout cas, enfin peut-être pas pour mille raisons, mais en tout cas pour plusieurs raisons, et notamment celle-ci, pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini de Dieu. Il est venu jusque la croix pour dire qui est le Père, quelle est la nature de sa compassion, de sa tendresse. Je vous ai dit que Dieu n'est pas un radar. Laissez-moi parler un petit peu des radars, pour vous dire que Dieu n'est pas un radar. Il y en a plein partout en France, mais alors en Suisse, vous savez que ça monte, ça descend, ça tourne, il y a beaucoup de tunnels, ça change de limitation de vitesse tous les 500 mètres parfois. Et je me rappelle, quand je passe dans ces tunnels, juste avant Bâle, pour aller en Allemagne, ou à Mulhouse, Colmar, Strasbourg, moi qui raffole de la musique classique, et qui parfois pense à mon travail, à ma famille, en voiture, eh bien, j'enregistre pas toujours si on est à 70, 90, 95, 80, 50, je mélange tout, sans doute parce que je suis beaucoup dans la lune. Alors bien sûr, il m'est arrivé d'avoir un PV un jour, que j'ai essayé de me faire sauter, mais c'était pas possible. Les Suisses à qui j'écrivais à Bâle faisaient semblant de ne plus parler français. Et alors, ils me comprenaient pas, ils me répondaient auf Deutsch, mais je comprenais, parce que je lis l'allemand, mais voilà, on communique mal, quoi. Le radar ne s'intéresse pas du tout si Jean-Luc, entre Collonges-sous-Salève et, on va dire, Berne, a roulé même en dessous de la limitation de vitesse ou peut-être a respecté parfaitement les limitations de vitesse. Le radar n'a que cure de savoir si Jean-Luc a appuyé sur le champignon dans un tunnel pour éviter un incendie, un danger. Le radar n'a que cure de ce qui m'est arrivé il y a quelques mois quand un camion allemand, sans doute qui était complètement vide et voulait retrouver certainement sa petite femme et ses enfants, me faisait des gros appels de phare parce que c'était écrit à l'entrée du tunnel 70 et que moi je roulais à 70. Alors il me faisait des gros appels de phare comme si j'étais un petit Français qui ne connaissait pas la joie de rouler sur les autoroutes allemandes en toute ivresse et liberté de vitesse. Alors il me faisait des gros appels. J'aurais pu accélérer pour éviter un danger, pour la sécurité. Il s'en fiche royalement le radar de ça. Ce qui l'intéresse, c'est de me prendre en faute. Et Dieu n'est pas un radar, frères et sœurs. Ce n'est pas sa passion. Il veut nous épanouir, Dieu. Bien sûr qu'il a envie de nous relever de nos fautes. Parce que ces fautes nous font du mal. Lui font du mal. Font du mal dans nos relations humaines. Mais ce n'est pas la faute qui intéresse Dieu. C'est notre épanouissement. Dieu n'est pas un voyeur, un inquisiteur, un radar. Ça, nous avons besoin de le redire. Et surtout lorsque nous étudions notre approche du jugement. Je vais terminer ce message. Il y aura d'autres lectures que nous ferons, pas seulement cet après-midi, mais aussi ce matin. Mais à un moment donné, je vais arrêter de parler et nous dégusterons certains textes bibliques et certains textes d'Ellen White en écoutant une musique tout à l'heure. Mais avant cela, je vous raconte une petite histoire. Authentique, ce n'est pas une parabole, une blague ou une légende. Ça s'est passé en Grande-Bretagne il y a un siècle environ. Entre deux personnes, Charles Spurgeon, que vous connaissez peut-être, un grand homme de Dieu, non adventiste, mais un grand homme de Dieu, certainement meilleur que beaucoup d'adventistes, et Joseph Parker, qui est moins connu que lui, mais c'était deux grands, des revivalistes, on va dire, qui ont réveillé le christianisme en Angleterre, mais ils n'étaient pas infaillibles, et en particulier Charles Spurgeon, dans cette petite histoire tout à fait vraie. Alors il y a un différent qui arrive et qui est en rapport avec ce petit message de ce matin. Il faut savoir quand même que Spurgeon, en dehors de ses qualités d'écrivain, d'orateur, de pasteur, d'évangéliste, de revivaliste, il s'occupait aussi, parce qu'il faisait beaucoup d'humanitaire ces gens-là à cette époque-là, il s'occupait d'un orphelinat de garçons. Et c'est là que ça commence. Parce qu'un jour, Joseph Parker, animé d'un cœur très très gros comme c'était le sien, se dit, ce serait intéressant qu'on fasse quelque chose dans notre église pour aider frère Spurgeon dans son orphelinat de garçons. Le malheur de Joseph Parker, c'est qu'il se met à réfléchir en parlant tout haut comme ça. Et il y a un paroissien mal intentionné, comme il n'y en a jamais ici à Bruxelles, mais qui écoute Joseph Parker. Et qui va transformer ça et aller raconter de façon détournée et distordue ce qu'a dit Joseph. Joseph a simplement dit, ce serait quand même chouette qu'on puisse aider les enfants, ça leur ferait plaisir d'avoir un peu plus de nourriture, d'avoir des vêtements et tout ça. Et ce frère, mal intentionné, va dire à Charles. Joseph a dit qu'ici, on ne mange pas assez dans ton orphelinat, que les enfants ont faim et qu'ils sont mal habillés. Alors bien sûr, Charles Spurgeon est pris dans son amour propre et le dimanche qui suit, Joseph va passer un sale quart d'heure parce que Charles, au lieu d'avaler sa salive ou de s'enquérir de la vérité, d'aller prendre un rendez-vous avec Joseph, dis donc, parce qu'ils étaient très amis, c'est vrai que tu as dit ça, c'est quand même blessant. Ou même il aurait peut-être dû l'écouter d'abord avant de prononcer un mot de jugement sur lui. Non, non. Alors il parle pendant le culte. C'est surtout pas ce qu'il faut faire, mais il l'a fait. Alors voilà, action très très vive. Lui, Joseph, n'entend pas du tout ça, parce qu'il prêche dans une autre paroisse de la même ville. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un chrétien qui décide d'aller trouver par cœur à son domicile. Voilà ce que Charles a répondu à ce que, frère, vous avez apparemment dit sur lui. Et dans le climat très très croustillant d'un combat entre deux grandes figures du protestantisme évangélique de cette époque, il y a des membres d'église qui se réjouissent, qui aiment quand ça saigne comme ça, quoi. Hein, c'est un spectacle, un feu d'artifice. Gloire à Dieu, il n'y a pas de frères et sœurs comme ça qui aiment ce genre de climat. Mais il y en avait à cette époque-là. Il y a des spécialistes pour ce genre d'exercice. Alors Parker réfléchit un moment parce que le frère en question lui dit « Tu pourrais pas répondre, tu pourrais pas répondre dimanche prochain pendant le culte ?» Et Joseph Parker, qui était un homme d'une profonde humanité et qui aimait vraiment Dieu et son prochain, réfléchit. Il est très tenté, vous savez. Il n'a pas envie du tout de répondre. Mais il répond quand même « Ok, il y a un défi et je vais parler. Je vais parler dimanche prochain sur la chaire. » Alors le dimanche arrive, il n'y avait pas de téléphone, hein, mais les gens se sont rencontrés. Il y avait 3-4 fois plus de monde dans l'église ce dimanche matin-là. Hein. Les gens étaient venus comme vous iriez au stade du Hesel ou au stade de France. Il y a un match là fantastique, là. Ça va être fort. Il y aura de l'ambiance, des gens qu'on n'avait pas vus depuis je ne sais pas combien de temps. Le culte commence, pas un mot de Joseph Parker. Il prêche, il termine, pas un seul mot de Joseph Parker. Il y a des gens qui ont dû se dire, c'est ça donc la réponse. Ouais, c'est ça la réponse. Alors, effectivement, on prend une grande leçon. Il ne dit rien. Et il a dit pourtant qu'il dirait. Donc il faut rembourser les billets. On est venu, qu'est-ce qui se passe? Et contrairement à ce que nous avons fait ce matin, nous, là, les offrandes, la collecte, ça s'est passé à la fin de la cérémonie. Et tout d'un coup, Joseph se lève et il parle. Et je vais vous lire ce qu'il a dit. Frères et sœurs, notre frère Charles Spurgeon est souffrant ce matin. Il avait appris qu'il était malade et qu'il n'avait pas pu aller prêcher. Et comme c'est triste, car justement c'est un dimanche important pour lui. Il voulait aujourd'hui faire un appel à la générosité de ses membres pour recueillir des fonds pour son orphelinat. Et là, je vous propose de le faire ensemble, ici. Puis on lui donnera l'argent. Parce que frère Spurgeon fait une œuvre extraordinaire, bénie de Dieu dans cet orphelinat. Je suis sûr que vous aurez de la joie à soutenir ce matin l'action magnifique de notre frère Charles Spurgeon. Alors la compassion de cet homme a touché l'assemblée. Il a fallu que les diacres passent 3 fois dans les rangs. Il y a des gens qui voulaient donner 3 fois. C'est impressionnant ça. Alors bien sûr, cet argent a été remis ensuite à Charles Spurgeon en pyjama, mais il a quitté le pyjama et la semaine il a pris rendez-vous avec Joseph pour aller demander pardon. Et il a dit ces paroles à Joseph, des paroles que, connaissant par la lecture ce Charles Spurgeon, moi-même je pourrais dire ça de Charles Spurgeon, si vous le connaissiez. Bien sûr, il n'était pas infaillible. Il prend Joseph dans ses bras et il pleure, Charles Spurgeon. Et il dit, Joseph, parmi les êtres humains que j'ai rencontrés jusqu'à ce jour, pour moi, tu es celui qui est le plus proche de l'esprit qui animait Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a des façons de parler qui ne font pas grandir l'être humain. La forme, le contenu bien sûr, mais la forme de ce que nous disons compte beaucoup. Il y a des mots, des idées, des comportements qui ne font pas du tout grandir l'être humain, qui empêche l'être humain d'être à l'écoute d'ailleurs. Nous savons tellement peu de choses sur notre prochain. Nous voyons la surface parfois de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, la manière dont il agit. Mais nous ne savons pas la raison pour laquelle. Dieu sait la raison. Mais parfois nous avons la prétention d'être le Saint-Esprit et de pouvoir penser non seulement ce que la personne a dit, comment elle s'est comportée, mais la raison pour laquelle elle a vécu ça. Et nous ne le savons pas ça. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Alors nous nous prenons pour le Saint-Esprit et curieusement, en médisant, en critiquant, il nous arrive parfois, inconsciemment, de reprocher à la personne qu'elle n'est pas Dieu, qu'elle n'est pas parfaite donc. Je ne suis pas compétent en matière médicale du tout, mais ça me fait penser quand même que cette façon de vivre nos relations humaines sont parfois un symptôme d'une déficience immunitaire, d'un problème de relation avec Dieu certainement, de manque de silence, de communion avec Dieu. Et à cause de cette déficience immunitaire, nous ne reconnaissons plus le virus qui est en nous parfois. Et cette abstinence, frères et sœurs, de colportage, cette abstinence de médisance, cette abstinence de critique, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soient, et même dans ma vie. Et c'est, en tout cas, j'en suis intimement convaincu, pour moi, petit Jean-Luc, l'un des tests les plus fiables de ma prétention à être un disciple de Jésus-Christ. Alors, l'une des solutions à cette catastrophe, à cette calamité, c'est de redécouvrir la beauté du caractère de Dieu, qui lui passe son temps à valoriser. Et dans les évangiles, ce Dieu-là, il a pris la forme humaine, et il passait son temps à valoriser des êtres humains, des femmes qui ne valaient rien à cette époque-là. Il dialogue avec des femmes, et parfois des femmes non-juives, à plein midi, sous la canicule, alors que tout le monde peut jaser. Et quand Jésus est dans le territoire de Tyr et de Sidon, et il se repose un peu dans une famille, il y a une femme qui vient là, à laquelle Jésus dit des choses qui sont parfois mal interprétées, mais elle n'a pas été humiliée, cette femme. Et il accepte une visite d'une femme. On ne nous dit même pas qu'il y a des témoins là, il y a Jésus, il y a cette femme, au risque de quantité de cancans, et Jésus valorise cette femme. Et Jésus valorise cet officier romain, en disant qu'il n'a jamais vu de la foi, même en Israël. Moi, si je disais ça, que j'avais jamais vu la foi dans l'histoire de l'église adventiste, en disant, ben voilà, j'ai vu là un maghrébin à l'aéroport, là, mercredi. J'ai jamais vu une foi comme ça, même dans l'église adventiste. Vous me lanceriez des tomates. Quoique je vous attribue peut-être des comportements qui ne sont pas du tout les vôtres, pardonnez-moi. Jésus a dit ça, d'un mangeur de cochons et de quelqu'un qui travaille le sabbat dans sa caserne. Jamais vu une foi aussi extraordinaire, même en Israël. Alors, j'ai fini de parler, mais je n'ai pas fini de prêcher. J'aimerais qu'on médite non seulement sur une belle musique classique, et aussi quelques paroles de la Sainte Écriture et d'Ellen White, entre autres, il y aura aussi d'autres textes, pour prolonger dans un moment de semi-silence cette méditation. Nous allons parler à Dieu ensemble. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, d'avoir eu cette idée extraordinaire de venir sur cette terre pour nous parler, pour nous montrer ton visage, pour nous aider à vivre de ta personne, de ton caractère. Merci Seigneur, parce que par ta parole, nous pouvons goûter le bonheur qu'ont eu des êtres humains de voir Jésus-Christ, de manger avec lui, de l'écouter, d'être guéri par lui, de lèpre, d'infirmité, mais aussi guéri du péché, de la méchanceté, de l'horreur qui consiste à blesser des êtres humains. Notre Dieu, nous sommes comme les apôtres et ils n'avaient pas compris certaines choses que tu leur disais chaque jour et que tu vivais devant eux. Et nous sommes comme eux, Seigneur. Nous te ressemblons si peu. Et nous te disons pardon, Seigneur, ce matin, pour notre prétention à être des chrétiens, alors que tu es différent de nous et que tu respires la générosité, l'accueil, l'hospitalité, la guérison, le salut. Bien sûr, tu as des choses à nous dire sur nous qui nous font parfois réfléchir, qui nous interpellent, qui nous secouent, mais tu le dis avec tellement de gentillesse, tellement de miséricorde. Aide-nous à vivre cela, Seigneur, dans nos relations aussi, à t'imiter, Seigneur. Merci pour les amis que tu m'as fait aujourd'hui, qui sont des frères et des sœurs de partout et qui sont nouveaux pour moi. Merci pour leur hospitalité, Seigneur. Je voudrais te demander de les bénir les uns et les autres, des tout-petits, nouveau-nés ou jeunes enfants, pour qu'ils t'aiment jusqu'aux plus âgés, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à vivre cet amour que tu as mis dans leur cœur, pour que cette Église soit belle devant toi, mais aussi qu'elle donne envie à ceux qui voient vivre cette Église de communier avec eux dans la grâce, dans le bonheur d'avoir un Dieu qui nous épanouit, qui nous fait grandir pour mieux aimer. Merci pour l'adventisme aussi, Seigneur, qui est un cadeau, une bénédiction. Pas une fin en soi, mais un cadeau fantastique, rempli de bénédictions pour optimiser notre relation avec toi et nos relations humaines. Aide-nous à ne pas l'idolâtrer, Seigneur, cet adventisme. Ce n'est pas lui, Seigneur, notre religion, c'est toi. Mais merci, Seigneur, aussi pour ce que nous savons, ou parfois croyons savoir. Aide-nous, Seigneur, à ne pas identifier notre frère, notre sœur, en fonction de ce qu'il sait ou ne sait pas, a compris, n'a pas compris, ou de ce qu'il vit, ou que nous croyons qu'il vit. Aide-nous à l'identifier parce que c'est ton enfant, Seigneur, et qu'il mérite, Seigneur, tout notre respect pour sa dignité, pour sa vérité. Aide-nous à agir comme tu agis, Seigneur. Nous t'en prions. Donne-nous des forces pour cela. Au nom du Christ, nous t'avons prié, Seigneur. Amen.